Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathilde Lapierre. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors, très content de te retrouver, puisque pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an avec Raphaël de Copano, qui est basé du côté de Notre-Dame-des-Landes, qui a initié un projet sur KissKissBankBank, où j'avais... comme beaucoup d'autres, participer à ce projet donc de conception de panneaux en paille pour la construction. Et en fait, la contrepartie, c'était une formation par l'association Nebraska, dont tu fais partie avec Cédric. Et donc, j'avais adoré cette formation. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je relance le podcast, il faudra que je t'interviewe, parce que j'avais trouvé ça génial. On va évidemment revenir... en long en large sur ce que fait l'association et ce que vous faites au sein de cette association. Mais déjà, Mathilde, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter et ensuite nous présenter un petit peu ton parcours?
Eh bien, c'est Mathilde Lapierre, ouais. Je suis une formation d'architecte. Donc, j'ai d'abord été formée à l'école d'architecture de Grenoble. Et puis, dès la sortie de l'école, j'ai fait du chantier en plus de l'architecture. Et puis, je me suis très, très vite intéressée à la paille. J'ai même jamais vraiment fait autre chose. Et puis, on a fondé, avec Cédric et Amelin, l'association donc Nebraska, dans laquelle je suis toujours à l'heure actuelle. Et on est spécialisé en fait, dans la paille porteuse. Voilà. Donc, okay. Et j'ai aussi j'ai passé mon CAP charpente il y a quelques temps pour un peu étoffer mes compétences au niveau technique. Et puis j'ai arrêté l'archi maintenant pour me concentrer sur la paille.
Ok. Et on va revenir sur tous ces détails parce que c'est quand même assez original. Enfin bref, je laisserai chacun juger, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc en gros, aujourd'hui, tout le monde l'aura compris, on va parler plus de construction. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dresser un panorama rapide des principales difficultés actuelles et puis peut-être même à venir surtout des modes de construction actuels? Alors, on va principalement parler béton, mais aussi construction bois à 100%. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les non-initiés, s'il te plaît?
Je vais pas forcément faire un cours sur la situation, on va dire, du bâtiment actuel, mais je peux déjà effectivement donner en tout cas mon regard. Le secteur du bâtiment est un des plus émetteurs, un des plus consommateurs, émetteurs en CO2, et on construit encore effectivement, la réglementation a évolué, mais on construit encore beaucoup avec des matériaux qui sont donc peu isolants et avec des matériaux qui utilisent beaucoup de ressources non renouvelables. Tout le monde connaît un peu l'exemple du béton, qui est constitué donc de sable, de ciment, qui sont des matériaux qui sont pas infinis. Donc pour le sable, on sait qu'il y a des problématiques d'approvisionnement, et pour le ciment, qui sont avec un matériau qui est extrêmement émetteur en CO2. Actuellement, on a quand même un problème sur le bâtiment qui est quand même vachement à la traîne par rapport aux enjeux environnementaux actuels qu'on connaît. Et on sait tous que c'est un peu urgent de réagir, notamment sur le bâtiment qui est encore une fois très très émetteur de CO2.
Ouais, d'autant plus que si on veut être un peu concret, je sais que le sable est considéré par l'ONU comme la ressource la plus à risque après l'eau au niveau mondial. Donc, c'est pas une petite problématique. Et puis, de même même en France, il y a beaucoup de chantiers où il y a des difficultés d'approvisionnement sur le sable. Donc, on est sur un vrai, vrai sujet, quoi.
Oui, tout à fait.
Et donc, dans ta présentation, tu as évoqué les termes paille porteuse, mais dans l'esprit commun, les gens peuvent connaître la paille comme un matériau pour isoler, mais pas véritablement pour construire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur justement cette fameuse paille porteuse, s'il te plaît?
La paille courteuse, c'est vrai que c'est une solution. Je pense qu'il a attiré assez vite. Parce qu'il y a déjà, il y a un côté un peu magique quand même dans le fait que ce soit un matériau mou qui soit en fait porteur. Et c'est un peu, je pense qu'il y a un côté un petit peu, je sais pas comment dire, challenge peut-être, ou en fait, c'est quand même un matériau qui d'instinct, voilà, n'est pas fait pour porter, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, il peut le devenir, et que du coup, en fait, on va utiliser le matériau dans toutes ses qualités. Et c'est un peu ça que je trouve super intéressant dans la paille porteuse. C'est un petit côté, voilà, solution magique, isolant, porteur, support d'enduit. On va rentrer dans le détail plus précisément. Mais c'est un matériau, en fait, ultra simple, ultra banal, voilà, qui vient de pas loin. Ouais, qui est accessible, qui passe pas par la chaîne, par des filières industrielles, en fait. Ça aussi, qui est quand même super intéressant. Et, ouais. Et voilà, dans le cas de la paille porteuse, qui en plus peut reprendre la charge d'une toiture, quoi.
Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur les avantages de la paille porteuse. C'est un matériau qui amène un certain confort dans le bâtiment, qui gère bien le niveau d'humidité d'une pièce, qui a une excellente performance d'isolation. J'en oublie sûrement.
Ouais, tout à fait. Il a plein d'avantages. Tu l'as dit, hygrométrique, c'est un bon... Alors, l'enduit terre est encore bien meilleur, mais c'est un bon régulateur d'humidité. C'est aussi un super isolant thermique, en fait. Ça se situe quand même dans l'un des meilleurs isolants biosourcés. Après, c'est sûr, c'est des épaisseurs de murs relativement importante. Les gens n'ont pas encore l'habitude, en fait, d'avoir des murs qui font plus de 20 cm, parce que 20 cm, c'est le béton. Mais en fait, on est en train d'épaissir les murs des bâtiments, et c'est juste une question culturelle, en fait. Mais voilà, en fait, la paille est quand même un super bon isolant.
Et justement, tu évoquais l'aspect géosourcé. Ça aussi, c'est assez extraordinaire, parce que la plupart aujourd'hui des solutions, on a parlé de la laine de verre, mais on aurait pu parler du polystyrène, qui est encore couramment utilisé. Là, on est sur de la paille, donc qui est disponible à peu près dans n'importe quelle région de France, corrige-moi si je dis des bêtises, et surtout de souvenirs, vous aviez dit pendant la formation avec Cédric, il y avait, je crois, 50 millions de tonnes de paille qui étaient produites chaque année en France. Il y a, évidemment, les fermes utilisent une bonne partie, mais il reste 5 millions dont on ne sait pas quoi faire, quoi. Et juste avec ces 5 millions, on pourrait isoler toutes les constructions de logements chaque année en France, quoi.
Tout à fait, ouais. Ouais. C'est aussi un énorme avantage de la paille. Alors, elle n'est pas partout disponible sur le territoire français. Elle n'est pas homogénéiquement disponible, on va dire. Parce qu'il y a des territoires comme la Beauce où évidemment il y a beaucoup plus de production, puis il y a des territoires où il y a plus d'élevage, et donc en fait il y a plus d'utilisation pour justement la litière, en fait, des animaux. C'est le principal usage, en fait, de la botte de paille. Et donc, en tout cas, t'as bien, hein, t'as effectivement les bons chiffres. Et actuellement, en fait, on n'utilise que 5000 tonnes de paille, enfin de bottes de paille. Et donc on voit qu'il y a il y a un facteur 1000 entre ce qui est disponible et ce qu'on utilise actuellement. Donc, en fait, c'était vraiment une filière qui peut se développer énormément.
Et il y avait un autre aspect qui me semblait assez fou. Alors là, on va en plus aller sur l'aspect paille porteuse. C'est que on parle beaucoup actuellement de construction en bois, mais on a tendance à oublier que dès les années 2030, il y aurait des difficultés d'approvisionnement en bois pour la construction. Et c'est là que, justement, la paille porteuse reprend tout son sens.
Ouais, tout à fait. Il y a des études qui ont été faites, notamment une étude qui s'appelle Terra Crea, qui est très intéressante et qui, en fait, a étudié, la hausse de l'éco-construction dans les 30 années qui arrivent. Donc, on sait qu'en fait, on va quand même, grâce à la réglementation, heureusement, les mœurs, je sais pas comment.
Ouais, l'état d'esprit, quoi.
L'état d'esprit, voilà. On sait que ça va beaucoup, beaucoup augmenter. mais que en fait c'est quand même un vrai problème au niveau de la filière bois, parce que voilà, les forêts comment elles sont structurées actuellement, on va avoir beaucoup de mal à répondre à cette énorme augmentation. Et donc en fait, on sait que si on fait rien, et effectivement en 2050, il y a peut-être à peu près un tiers des bois de construction qui vont devoir être importés. Ce qui est quand même en fait super problématique, parce qu'on essaye de faire quelque chose de plus vertueux, mais en fait, si on utilise du coup des bois qui ont fait 8000 km, c'est un vrai problème en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas très connu, je pense, du grand public. C'est-à-dire que le bois, c'est super, mais il faut aussi pas en abuser, parce qu'en fait, on n'a pas la ressource pour pouvoir suivre la cadence, en fait.
Ouais. Et surtout que malheureusement, le marché international du bois est vachement soumis au braconnage, au trafic, etc. Donc effectivement, pour éviter toutes les difficultés que tu as évoquées, surtout si on ne sait pas d'où vient précisément le bois, ça devient un non-sens complet, quoi.
Ouais, et puis c'est aussi le fait que je pense que mettre en pression une filière, ça aussi amène énormément de problèmes. On sait déjà qu'il y a beaucoup de problèmes de gestion forestière sur la densification, voilà, la sylviculture. Il y a plein de problèmes de monoculture dans les forêts françaises, voilà, qui posent plein de problèmes de biodiversité. Et en fait, si on met sous tension ces filières-là, on sait pas mal faire que pousser le genre de pratique. Or, il faut évidemment aller vers autre chose, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est surtout, on a rapidement parlé d'état d'esprit, mais alors, il y en a eu d'autres, vous en aviez montré beaucoup pendant la formation, mais en France, on a quand même la maison feuillette. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement?
Ouais, la maison feuillette, c'est le bâtiment le plus vieux qu'on ait retrouvé en Europe, en ossature bois remplissage bottes de paille. C'est-à-dire, c'est un ingénieur qui, en fait, après la Première Guerre mondiale, a élaboré un concept qui est donc des petites poutres régulièrement disposées entre lesquelles on vient mettre des bottes de paille. De paille, d'ailleurs pas que de paille, il était déjà super précurseur sur les... Il a décrit tout son système et il dit qu'on peut venir y mettre des bottes de paille, des bottes de... Il liste toutes les céréales qui peuvent fonctionner. Donc il était... c'était hyper ingénieux. Après, c'est un exemple un peu tout seul dans son coin. En fait, il y a pas eu vraiment d'émule au-delà de sa petite expérience.
Ce qui est dingue, c'est que pourtant à l'époque, il fallait reconstruire vite, etc. Et que, en fait, il avait vraiment trouvé une solution, mais qui n'a pas, été vraiment adoptée, quoi, parce que.
Ouais, je crois qu'il y a que deux maisons.
Existe encore en plus.
Ouais. Il y a que deux maisons, je crois, qui ont été retrouvées. Donc il y a la maison Feuillette, il y en a une autre qui a été retrouvée ailleurs, au sud de Paris. Et donc elle est toujours debout, elle est en super santé. Il y a le CNCP qui l'a racheté. Alors CNCP, quel est l'acronyme, je ne sais plus.
C'est national des
la construction paille.
Ouais, ça doit être ça.
Qui l'ont racheté. Donc voilà, c'est une maison qui va super bien à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la filière. La paille, elle a pas pris l'eau, donc elle vieillit très bien. Mais effectivement, je pense qu'à l'époque, ça devait être complètement... Il a dû passer pour un berlu, je pense, avec sa solution, quoi.
Mais j'ai lu récemment qu'il avait quand même déposé son brevet aux États-Unis et tout. Et puis, il y a pas mal de maisons, enfin, là aussi, vous l'aviez montré pour la formation, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, qui sont aussi isolées et construites en paille, quoi.
Ouais, en fait, les plus vieux bâtiments en paille sont aux États-Unis. Sont en fait dans le Nebraska, c'est pour ça que nous on s'appelle Nebraska. C'est sur la fin du 19e et en fait les premiers bâtiments en paille étaient en paille porteuse. C'est-à-dire qu'en fait à l'époque c'est un peu l'arrivée de l'agriculture laborieuse en fait, avec l'arrivée de l'agriculture intensive dans des régions qui n'ont pas beaucoup de bois. Et donc en fait les ouvriers agricoles ont trouvé cette solution en fait d'empiler les bottes de paille. Alors j'imagine qu'au début ça devait être un peu fait de briques et de broc, mais Mais ça, en fait, actuellement, il y a encore des bâtiments qui sont en paille porteuse, qui sont là et qui fonctionnent encore très bien, en fait.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est que contrairement à l'idée reçue et les trois petits cochons, la maison en paille est peut-être la pire de toutes. En fait, il s'avère que c'est peut-être un des matériaux les plus sains, les plus solides, effectivement, quand c'est bien fait et bien construit, et puis les plus agréables à vivre.
Ouais. Après, effectivement, je pense que on n'a pas peut-être. C'est aussi une question de voilà de mœurs, mais c'est vrai que le béton, la brique, des matériaux comme ça, minéraux, résistent assez bien en fait à l'eau. C'est-à-dire que on peut abandonner une maison, elle peut prendre la pluie pendant 40 ans par le poids et elle restera relativement. Elle pourra encore être récupérée, quoi, encore être réhabité, alors que avec tous les matériaux biosourcés, au bout de 5 ans, ça passe assez mal, quoi. Ça commence à pourrir.
Oui, s'il n'y a pas d'entretien du tout, etc., quoi.
Voilà. Mais c'est juste une question de mœurs, en fait. Il faut qu'on évolue là-dessus et pas avoir. Il faut avoir tous les matériaux, enfin tous les bâtiments construits en biosourcés. Il faut avoir une attention particulière sur la qualité de la couverture, quoi.
Et d'ailleurs, justement. Tu vas pouvoir nous présenter l'association en Nebraska parce que c'est précisément ce que vous faites, des constructions en paille porteuse. Enfin, je te laisse nous présenter l'association.
Ouais. Nous on est donc spécialisés dans le, on s'est vraiment construit sur le développement de la paille porteuse. C'est-à-dire que un peu toutes nos actions vont dans le sens du développement de la paille porteuse. Parce que, je vais être obligée de dire deux mots un peu du contexte. En France, pour que une entreprise, une architecte construise, on a une obligation d'assurance. C'est vraiment, c'est donc on est, on peut pas ne pas prendre d'assurance en fait. Et cette assurance qui s'appelle l'assurance décennale, c'est l'assurance qui couvre l'ouvrage pendant 10 ans. Cette assurance, l'assureur, il accepte de l'assurer seulement si la maison est en technique courante. Et en fait, c'est cette expression, la technique courante. En fait, il faut que ce soit, il faut que la méthode de construction utilisée respecte des normes, un DTU, des règles pro. Enfin, il y a plein de familles après différentes de textes, mais on peut pas construire comme on veut, quoi. Parce que sinon, l'assureur ne nous assure pas. Donc, il y a un énorme enjeu sur la question de l'assurance. Je dis ça parce que un des axes de Nebraska depuis le début, c'est d'avancer sur les textes réglementaires. Parce que la paille porteuse, actuellement, n'a pas de texte réglementaire qui décrit comment est-ce qu'on doit construire. Et donc, ça fait depuis le début qu'on s'est attelé on a essayé de regrouper des gens. Des professionnels qui construisent comme ça, parce que du coup, il y a quand même des gens, c'est ça qui est un peu fou, c'est qu'il y a quand même des gens qui construisent en fait en paille porteuse, bien qu'il n'ait pas d'assurance. En fait, ils prennent des risques concrètement, mais heureusement qu'ils sont là, parce que en fait, nous, après, quand on présente un texte au gouvernement, le gouvernement va en fait dire ok, mais combien vous avez de bâtiments construits comme ça? Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et donc en fait heureusement qu'il y a des gens qui prennent des risques et qui construisent quand même sans décennale, parce que ça permet après d'aller présenter un texte au gouvernement pour pouvoir obtenir des décennales. Enfin voilà.
Ouais, mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est que vous avez déjà pas mal de chantiers. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns,
ouais,
histoire que j'imagine qu'ils font partie des projets que vous avez montrés aussi pour faire avancer la cause de la paille porteuse?
Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, donc dans l'asso, on avance sur la question réglementaire, mais on fait aussi du chantier. On essaye de faire à peu près 3-4 chantiers par an pour justement choisir des bâtiments un petit peu particuliers, un petit peu démonstrateurs, pour pouvoir dire on a fait. Parce que c'est important pour crédibiliser la filière de pas faire que des bâtiments qui seraient des maisons, par exemple. Donc on essaye de faire des bâtiments un peu représentatifs de la diversité en fait qui existe dans la construction en France. Donc on fait du chantier, qu'on a fait donc des petits ERP, c'est des établissements recevant du public, On a fait, là, on vient de terminer un bâtiment pour les travailleurs, donc cantine, vestiaire, voilà. On a aussi isolé une fondation d'art contemporain. Voilà, on va un peu sur tous les terrains. On a aussi fait des maisons individuelles.
C'est sûr, hein.
Voilà, on essaye de faire un maximum de projets différents.
Et il y avait aussi, je crois que c'est ça qui m'avait un peu surpris, c'est que vous avez aussi fait une chambre froide.
Oui, tout à fait. On a aussi fait une chambre froide. Alors, c'est un sujet assez technique, mais assez intéressant. En fait, moi, je ne connaissais pas le sujet avant de me plonger dedans, mais en fait, ça consomme beaucoup, beaucoup une chambre froide.
Bien
parce
sûr.
Que souvent, bah, voilà, c'est un groupe froid en fait, qui produit du froid, mais souvent, en fait, on vient mettre du polystyrène autour. Et en fait, le polystyrène est un très mauvais isolant du chaud.
Mmh.
Et donc, en fait, c'est super dommage. Ça ne marche pas du tout. Quoi. Enfin, c'est vraiment mal pensé, quoi. Et ça vient, en fait, ça devient très intéressant de mettre de la paille parce que la paille, au contraire, est un bon isolant du chaud. Il y a plus, il est plus lourd, en fait. Et donc, on a fait comme ça une chambre froide. On en a même fait deux. Et ça, on a instrumenté pour pouvoir vérifier que tout passait bien. Voilà, tout passe bien. Et surtout, les consommations sont super faibles. Donc, c'est hyper encourageant, en fait.
Ouais, c'est dire la pertinence de la solution parce qu'une chambre froide, on se dirait, bon, bah, il faut des trucs hyper. Classique, mécanique, ultra, je sais pas comment dire, mais je pense effectivement à du polystyrène, mais en fait, non, il s'avère que la paille est plus performante, c'est ça qui est fou, quoi.
Ouais. Ouais, non, la paille, ça, voilà, on se classe vraiment parmi les meilleurs isolants. Voilà. Même si c'est pas, c'est, comme je le disais, c'est une épaisseur de 46 cm, donc c'est pas non plus, voilà, faut s'habituer.
Ouais, tout à fait. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir un bâtiment agréable, etc. Mais c'est peut-être même, quand j'y repense, le seul inconvénient de la paille, si on fait un petit peu l'état des lieux des pour et des contre.
De la paille, ah, les pour et les contre. Mmh. Les pour, bah, il y en a tellement. Voilà, local, super isolant. Ça se composte, les déchets de chantier se compostent. On se rend pas compte, mais en fait, un chantier, ça génère des tonnes de déchets.
Bah, bien sûr.
Donc ça, c'est trop chouette.
Et puis,
il
y a un côté, peut-être, sur lequel on reviendra après, mais c'est aussi une technique de construction qui est hyper accessible. Enfin, je veux dire, bon, encore une fois, je prétendrai pas faire ce que vous avez fait loin de là, mais la formation qu'on a faite l'année dernière, en une demi-journée, vous nous avez montré comment faire un mur, quoi. C'était quand même assez génial. On était une dizaine, douzaine à faire un mur tous ensemble, juste avec des bottes de paille. Et on a réussi un truc qui était rigolo, quoi. Enfin, bref, c'est aussi le côté accessible ouais. du matériau, quoi.
Oui, alors je suis toujours un peu ambivalente. J'aimerais aussi que les gens ne pensent pas que c'est trop simple parce qu'il y a quand même des difficultés techniques et il ne faudrait pas que. Ils se lancent comme ça à faire des murs tout seuls dans leur coin. Il y a quand même besoin de, enfin, à mon sens, il y a besoin d'une vraie formation. Là.
Bien sûr.
Et puis, il y a des trucs à pas rater. Mais oui, c'est vrai que c'est une méthode quand même qui est ultra low-tech aussi. Il y a quand même peu d'outillage cher.
Mm-hmm.
Effectivement, hein, il y a pas beaucoup de matériaux dans un mur en paille. Quoi. Il y a trois matériaux, il y a un peu de bois, il y a de l'enduit et il y a de la paille. Quoi.
C'est ça qui est fou. Quoi. Et est-ce que tu vois d'autres avantages, d'autres points forts de la paille? Où on les a tous
fait? Bah, ça fait quand même de l'argent. Enfin, du coup, quand on prend une paroi en paille, bah, voilà, y a un peu des sous qui vont partir à la matière première. Et puis aussi, il y a des sous qui vont partir donc, aux personnes qui vont le construire. Et en fait, cette répartition, elle est plus intéressante dans les murs paille, en fait, parce que ça guide l'argent plutôt vers la main-d'œuvre. Alors que quand on va acheter, j'en sais rien, la brique monomure, bah, la brique monomure, en fait, elle va coûter plus cher. En fait, elle va être fabriquée, j'en sais rien, pour le coup, j'ai aucune idée sur la monomure, mais elle va être fabriquée plus loin, sûrement, j'en sais rien, en Pologne ou quelque chose comme ça,
ouais.
Avec une main-d'œuvre moins payée et elle va être posée en France par des intérimaires peu payés. Donc, c'est aussi. Moi, j'aime bien aussi l'idée que, quand même, le bâtiment, c'est un secteur au niveau de l'emploi qui est quand même chaud, quoi. Les gens sont quand même pas bien payés, ils font un travail vraiment dur. Et
ouais, avec des conditions de sécurité souvent discutables.
Ouais, voilà, même, évidemment, il y a plein d'améliorations, mais voilà, du coup, c'est intéressant de ces emplois voilà, plus qualifiés et locaux, en fait. Ça recentralise en France, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, on relocalise l'activité économique et tous ces flux. Et puis, il y a peut-être un avantage aussi qu'on a oublié de mentionner. Enfin, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais dans cette rapide état des lieux, c'est tout simplement ça capture du carbone. Enfin, ça en stocke.
Oui, tout à fait. Quand ça pousse, en fait, pour faire la photosynthèse, ça stocke le carbone, en fait, pour faire sa structure. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que, par exemple, voilà, quand on fait un mur en béton, il y a du ciment. Le ciment, pour le cuire, pour faire le calcaire, on va émettre du CO2, alors que la paille fait exactement l'inverse, elle va le stocker. Donc, c'est aussi pour ça que c'est, enfin, c'est même, au niveau environnemental, je pense que c'est le meilleur argument de la paille.
Oui, tout à fait. Et donc, à moins que d'autres avantages te reviennent à l'esprit, mais les inconvénients de la construction en paille, ce serait quoi selon toi, mis à part la fameuse épaisseur des murs? Et encore, je pense que c'est quelque chose qui peut être anticipé sur les constructions neuves, non?
Oui, tout à fait. Je pense le principal inconvénient pour l'instant, ça reste quand même l'argent. C'est-à-dire que pour l'instant, voilà, l'éco-construction reste plus chère que le conventionnel, quoi. Et ça, on a du mal à faire descendre les prix.
Et ça, mais tu l'expliques parce qu'il y a un manque de diffusion du savoir-faire et donc de tous les procédés qui pourraient permettre de réduire la note ou, enfin, je veux dire, de passage à l'échelle finalement, ou c'est d'autres aspects encore.
C'est difficile de savoir, mais effectivement, il y a peut-être le fait que l'éco-construction est principalement exercée par des petites entreprises, peut-être que, alors même si c'est en train de changer, il y a Bouygues, mais enfin voilà, il y a quand même des gros majors qui s'y mettent, et peut-être qu'ils vont réussir à optimiser, peut-être qu'ils ont, voilà, ils ont des compétences sur l'optimisation, j'imagine, oui. Donc ils vont réussir peut-être à faire un peu baisser, descendre les prix. Par contre, je sais pas, enfin, il y a aussi le fait que, disons, sur ce qui est placo et tout ça, toute la filière a été tirée, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper les prix. C'est, voilà, un mur en parpaing.
Il y a 100 ans d'habitude qui ont été établis et qui font que quand tu arrives depuis quelques années, t'as 100 ans de développement face à toi, quoi.
Ouais, et puis je pense que il y a aussi beaucoup, je pense qu'à tous les échelons, les prix ont été tirés par le bas, donc voilà, on prend des intérimaires, on prend des gens qui sont très peu payés un peu à tous les niveaux, alors que dans la construction en paille, je pense que les gens ont des salaires quand même plus élevés, qui font qu'en fait l'entreprise a des prix plus chers, en fait, que quelqu'un qui a une boîte de maçonnerie et qui fait bosser des intérimaires, quoi.
Ouais, et puis après, là, c'est aussi, on en revient toujours à la même chose, c'est est-ce qu'on paye juste la construction du mur ou est-ce qu'on va aussi faire payer tous les services, entre guillemets, fournis par ce mur? C'est-à-dire que tu as par exemple évoqué la relocalisation de l'économie, mais on aurait aussi pu dire, bah ouais, mais en fait, moi, mon mur stocke du carbone, donc je vais le facturer, alors que le mur qui va émettre du carbone, bah lui devrait être facturé beaucoup plus cher, histoire qu'on ait un véritable équilibre qui se recrée, quoi.
Ouais, tout à fait. Après, là où actuellement on arrive des fois à faire justement basculer les clients ou la maîtrise d'ouvrage, c'est quand on leur parle de consommation, parce que quand on compare un mur parfum polystyrène, on va leur dire, bah voilà, sur 15 ans, vous allez avoir telle note.
En chauffage,
et en refroidissement. Maintenant, on commence à quand même calculer aussi le refroidissement, parce que ça devient aussi un pôle de dépense, en fait.
Bah oui, oui, et surtout dans les bâtiments publics, j'imagine.
Voilà, oui. Et puis même, je pense que les privés vont aussi commencer à s'y mettre, malheureusement.
Et puis, en plus, ce qui n'était pas un sujet il y a quelques années devient un véritable sujet. Et puis, en plus, la climatisation nécessite plus d'énergie que le chauffage, en règle générale.
Oui, oui. Et si on compare du coup à un bâtiment en porteur, bah voilà, ou même paille en remplissage. Hein. Pardon, quand je dis porteur, c'est paille porteuse.
Ouais,
si on compare ça, évidemment, on va avoir une note bien moindre. Et là, si du coup on cumule à la fois le coût de construction et le coût de consommation, bah là, du coup, les clients pourraient basculer en disant, bah voilà, dans 20 ans, ma maison m'aura coûté moins cher, en fait.
Ouais.
Mais bon, ça nécessite aussi des gens qui voient les choses à plus long terme, ce qui n'est pas le cas de tous les de les acteurs du bâtiment, il y a des gens qui font, par exemple, la promotion, qui vont plutôt avoir un intérêt, un jour J, en fait, et pas à plus d'un temps, en fait.
Ouais, et puis il faut qu'il y ait une certaine connexion ou que ce soit la même personne entre le donneur d'ordre et l'organisation ou les personnes qui vont vivre le bâtiment, quoi.
Oui, ouais, tout à fait.
Parce que souvent, il va y avoir cette distinction entre je fais en sorte de construire au moins cher parce que je me fiche de ce qui va se passer dedans. Et inversement, si c'est la même personne, là, il va y avoir cette réflexion, on va dire, plus long terme, quoi.
Tout à fait, ouais.
Et tout ça, c'est assez fou. Et est-ce que, justement, tu peux nous en dire un petit peu plus de vos avancées d'un point de vue réglementaire, dans ce que tu peux dire, hein. L'idée, c'est pas de savoir des choses exclusives. Ce que je veux dire par là, c'est où vous en êtes par rapport aux assurances, où vous en êtes par rapport aux organisations publiques.
Alors nous, ce qui est bien, déjà dans l'assaut, on a convaincu notre assureur de nous assurer il y a déjà maintenant 2-3 ans. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a été d'accord pour nous suivre, alors que on n'est pas en technique courante. Mais on a réussi à le convaincre et c'est super chouette.
Est-ce que tu veux le citer, histoire de féliciter les assureurs qui sont, qui sont un peu novateurs?
Ouais, c'est l'auxiliaire.
Ok. Eh ben, bravo à eux, c'est cool d'avoir des assureurs qui fassent confiance.
Complètement, ouais. Et puis après, au niveau de la filière, au niveau national, on a déposé une première mouture, en fait, là, en juin. Donc, en fait, après, maintenant, on a plusieurs échelles de commission à passer. Et donc, avant d'atteindre la commission vraiment technique, il faut déjà qu'on réponde, le document, on a eu des retours sur un peu la conformité, plutôt, on va dire, je vais pas dire administrative, mais plutôt de forme.
D'accord.
Il faut d'abord qu'on corrige, et puis donc après, on passe dans des commissions techniques, mais il va se passer du temps, on a 3 ou 4 commissions à passer. Et donc, c'est pas pour l'année prochaine. Voilà, dans 2 ans, quoi.
Ouais, évidemment, c'est toujours hyper lent. Mais j'imagine en plus toutes les paperasses, les justifications qu'il faut donner, ça doit être assez costaud, non?
Le plus costaud, je pense qu'on l'a fait, c'est l'écriture du texte. Ça fait 200 pages. C'est la partie qui était peut-être la plus ardue. Mais effectivement, maintenant, selon les retours qu'ils vont nous faire, il va falloir peut-être qu'on complète avec des essais. On va aller dans des laboratoires, on va construire des murs, on va les casser, on va voir quelles sont les valeurs. Voilà, on va peut-être être amené à répondre à des points un peu plus pointus.
Ouais, sur des analyses ou des évaluations plus fortes, quoi.
C'est ça.
Ok. Qu'est-ce que j'allais te dire de plus? Nebraska, ça a été créé en quelle année?
2017.
Ok, excellent. Et donc toi, dès que tu as fini tes études, tu as rejoint Nebraska?
Je suis sortie en 2012 de l'école, donc il s'est passé quelques années, mais oui, assez rapidement, ouais.
Et est-ce que il y a des choses que tu aimerais ajouter par rapport à toute cette construction en paille porteuse ou des choses que tu un petit peu un bilan de tes maintenant presque plus de 10 années d'intérêt sur le sujet, c'est quoi tes principaux enseignements jusqu'à présent sur ce sujet?
D'un point de vue personnel ou d'un point de vue plus global?
D'un point de vue perso, parce que je pense que c'est un engagement assez fort, parce que j'imagine que la plupart de tes collègues en école d'archi ont peut-être pas forcément fait les mêmes choix que toi, donc ça ne devait pas être facile tous les jours, j'imagine.
Ce qui est super chouette pour nous, c'est que on était un peu personne il y a encore, 2-3 ans, et c'est super chouette en fait là de voir qu'il y a des institutions, il y a des maîtrises d'ouvrage qui s'intéressent à notre travail. Ça donne vraiment ça donne de l'énergie, en fait. Ça fait plaisir de voir qu'on commence à être reconnu et qu'on ne crie plus seul dans le désert, quoi.
Ouais, bien sûr.
Il y a un vrai intérêt, moi, je l'observe, chez les gens qui sont encore à l'école, chez les jeunes, ils sont ultra motivés. Ils n'en peuvent plus dans les écoles d'avoir la même rengaine, en fait. Donc, on sent que ça pousse, en fait, voilà. Moi, je sens ça.
Vous intervenez beaucoup dans, enfin, vous donnez beaucoup de cours dans les écoles?
Pas beaucoup. On aimerait en donner plus, mais il faut trouver les endroits. Enfin, voilà, faut arriver à s'initier.
À se faufiler, ouais. C'est ce que tu veux dire. Excellent. Et encore une fois, on peut vous souhaiter que de nouvelles portes qui s'ouvrent, etc. Parce que ce que vous faites, c'est vachement pertinent, quoi. Donc, bravo en tout cas pour votre parcours, quoi. Et justement, si on se resituait un petit peu au début de tes études d'archi, à ce moment-là, si tu devais te donner un conseil, si demain tu croisais Mathilde, donc j'imagine en 2017, quel conseil tu te donnerais en tant que apprentie étudiante en architecture?
Je crois que je me dirais d'avoir confiance, quoi. De pas d'avoir
Ouais.
confiance, en fait. Je pense que j'avais vraiment des intuitions sur ce que je voulais pas faire, mais c'était pas clair ce que je voulais faire. Et qu'en fait,
Ouais.
je pouvais avoir confiance dans. Je pense que j'avais peur de ces intuitions parce que en fait, je me disais mince, mince, il est pas trouvé un endroit où de place, quoi. Ça a bien du mal à trouver un endroit. Et en
Ouais, et
fait,
puis j'imagine quand t'as tous tes profs et tous les gens autour de toi qui suivent entre guillemets l'ordre établi, enfin sans jugement aucun, mais je veux dire les façons de faire habituelles, ça doit être hyper dur, quoi.
ouais. Et puis le milieu de l'architecture, c'est aussi un milieu qui est au niveau, voilà, au niveau des agences, c'est un milieu un peu difficile en termes de conditions de travail. Ouais. Je sais pas si c'est connu du grand public, mais c'est quand même un métier qui est vraiment difficile. Et voilà, du coup, je pense que c'était à l'école d'archi, on le savait. Voilà, c'était ça arrivait jusqu'à nos oreilles, mais on savait pas trop quoi en faire, quoi. Et je pense que moi, ça m'inquiétait.
Dans le passé, mais là on va se projeter dans le futur. Je sais pas si tu as des enfants, Mathilde, mais peu importe, on va considérer que tu as des petits-enfants et que tu es en train avec eux. Donc, mettons, je sais pas moi, dans 40 ou 50 ans, mettons. Et en fait, il faudrait que tu leur parles de finalement pourquoi tu as lancé Nebraska, enfin, comment tu pourrais leur en parler finalement, pourquoi tu l'as fait.
Ah bah, je crois que moi c'était un truc de sens, quoi. C'était pas possible de. J'avais envie d'aller dire d'aller dans le mauvais sens, quoi.
Tu veux dire que
C'est.
ramener du polystyrène de l'autre bout du monde et du béton à chauffer à je sais pas combien de degrés, c'est pas une bonne idée.
Ouais, moi je c'était. Voilà, c'était, je pense, impossible pour moi d'aller dans le sens conventionnel. Et c'est trop cool d'arriver à. Après, c'est pas toujours possible pour tout le monde, en fait, de trouver du sens dans son travail. Donc, je veux pas faire. Enfin, ouais, c'est pas forcément possible, je pense, pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est une bonne source d'épanouissement de passer du temps, parce que le travail, ça prend quand même vachement de temps, quoi.
Oui, c'est clair.
Que ça produise un truc qui me donne l'impression d'aller dans le bon sens, quoi.
Ben oui, clairement. Cool. Eh ben, écoute, Mathilde, c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur cette façon de construire qui est malheureusement encore aujourd'hui originale, mais qui t'a amené qu'à se développer finalement. Est-ce que t'as des liens? Alors, t'as parlé de certaines études, je t'inviterai à me passer les liens si je les retrouve pas. Mais est-ce que t'as des pistes, alors soit de livres ou peut-être même tout simplement le site de l'association Nebraska, histoire qu'on puisse approfondir le sujet?
Ouais, bien sûr. Alors, je suis désolée, c'est un peu de l'autoréférencement parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup en fait d'ouvrages sur la question de la paille porteuse, en fait. Donc, je peux citer effectivement le site de l'asso. C'est nebraskaconstruction.fr.
Ok.
Voilà, pour tout ce qui est ouvrage, il y a des trucs en anglais en fait, notamment qu'a écrit Barbara Jones, qui sont des livres assez techniques, mais c'est en anglais. Voilà.
Ok. Nickel. Eh ben, un grand merci pour ton temps. Bonne route à toi, Cédric, et tous les autres de l'association.
Ouais, je dirais.
Et puis bonne chance.
Et ben merci pour l'intérêt que tu portes à tout ça. Merci beaucoup.
Ben, de rien.